écrivain en pantoufles. Aujourd'hui, Balzac en pantoufles. Alors d'abord, et pour commencer par le commencement, j'ai choisi comme générique l'ouverture de la Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach, parce que dans cette musique, outre l'entrain, on a l'impression d'une porte qui s'ouvre. Nous voulons justement parler des écrivains, des grands écrivains, par le petit bout de la lorgnette, un côté un peu débraillé, comme si on visitait des amis au saut du lit. Et puis ces pantoufles, où ces babouches ont je ne sais quoi d'oriental, écho des mille et une nuits. Balzac est parmi tous les écrivains que nous rencontrerons cette année un véritable camarade, joyeux, un peu fantasque. Malgré la pluie, j'appelle un fiacre. Hop, hop là, hop. Je tends une pièce de 10 sous. Mon brave, à Ville d'Avray, au Jardise. Chez Monsieur Balzac ? Oui, c'est ça, chez Madame Debrie. C'est le nom que se donnait Balzac afin d'échapper aux huissiers. Dans les fiacres, à l'époque, Balzac aurait écrit. Aux alentours de 1830, il existait une catégorie de fiacres dont la lunette arrière permettait de voir défiler le paysage comme un tableau changeant intitulé « Vue de Paris à la manière de Piranèse ». D'abord, c'était les faubourgs un peu sales aux murs lépreux, les toitures parfois presque écroulées sous le poids des âges, arboraient leurs pauvres cheminées d'où sortait de manière poussive une fumée noire et grasse. Les premiers arbres, au bord d'une route, se penchaient vers la petite ouverture et la lune, à la texture d'une peau d'orange posée sur la nappe bleue du ciel, projetait sur les parois de la voiture les ombres tremblantes des platanes. Ensuite, Ville d'Avray pointait le bout de son nez. Une série de villas semblait vouloir contenir la route de plus en plus tournoyante. Dans un crissement suraigu, le hennissement des coursiers, les grelots énormes qui pendaient le long des harnais, les cris du postillon, la voiture s'arrêta. Je sautai très vite sur le talus. Me voici devant la porte. Magnifique porte à deux battants, peinturlurée d'un vert véronèse, qui retenait une plaque de marbre où le propriétaire avait inscrit en lettres noires « Les Jardises ». Je sonnai. J'entendais grogner presque muet le fameux chien turc. Le maître des lieux l'avait dressé à retenir ses aboiements afin que les huissiers pensant la maison inhabitée rebroussent chemin. À mon grand étonnement, un valet, habillé en livrée, perruque poudrée, apparut derrière la porte qu'il venait d'entrebâiller. « Si monsieur veut bien me suivre, mon maître vous attend au salon bleu. » Surprise ! Balzac, en personne, se précipita vers nous. Enveloppé d'une ample robe de moine, autrefois blanche, il tenait une tasse de café en porcelaine de Sèvres. « Monsieur Balzac, heureux de faire votre connaissance !» Le gros homme, qui avait l'allure d'un aubergiste, me serra la main avec tant de vigueur que j'eus l'impression d'avoir tous les doigts broyés. « Vous verrez !» me dit-il, tandis qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. « L'intérieur est un petit palais digne de Venise. » Il me fit entrer dans le salon aux rideaux fermés. « même si Balzac avait un physique un peu ingrat, dès qu'il parlait, son visage épais s'éclairait, ses yeux bleus pervenches jetaient des éclairs, et à cet instant, rien ne semblait pouvoir lui résister. Sur un secrétaire Renaissance, seul meuble dans une pièce étrangement vide, il avait posé le buste de Napoléon et sur son piédestal écrit à la main cette formule « Achevez par la plume ce qu'il a commencé par l'épée ». Je vais arrêter ici la description des lieux. Dans les romans qui forment la comédie humaine, dont l'ambition, pas des moindres, est de donner un panorama complet d'une époque, grosso modo la société française après l'épopée napoléonienne, montrant bien avant la psychanalyse les rouages secrets qui animent l'âme humaine, en occurrence chez Balzac la soif de l'or, ce qui rebute le plus le lecteur, ce sont les grandes descriptions, où Balzac pourtant fait preuve d'un talent inégalable. Si la description est un marqueur du réalisme, le réalisme balzacien a ceci de particulier qu'il n'est pas dupe de ce que peut être une réalité reconstituée, enclose dans les tissus du texte, les jeux autour des lettres. Ainsi, l'intérieur d'un logis n'est pas la copie d'un modèle, mais un pur artefact, un monde dédoublé, composé de signes qui se répondent et forment un ensemble où tout porte sens. Voici la maison du chat qui pelote, entrée dans la forêt balzacienne, où l'auteur joue sur les lettres, restantes d'un temps révolu, qu'il appelle des hiéroglyphes, écrit sur le mur, et s'amuse à décrire une enseigne comique où la queue du chat se transforme en l'ombre portée de l'écrivain ou du lecteur évoquant le grand Rabelais. Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit Lion, existait naguère une de ces maisons précieuses qui donnent aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l'ancien Paris. Les murs menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés d'hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner aux X et aux V que tracer sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles? Évidemment, au passage de la plus légère voiture, chacune de ces solives s'agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice était surmonté d'un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. Cette couverture, tordue par les intempéries du climat parisien, s'avançait de 3 pieds sur la rue, autant pour garantir des eaux pluviales le seuil de la porte que pour abriter le mur d'un grenier et sa lucarne sans appui. Ce dernier étage fut construit en planches clouées l'une sur l'autre, comme des ardoises, afin sans doute de ne pas charger cette frêle maison. Après vient la description de l'enseigne, de la maison du chat qui pelote. Cette toile causait la gaieté du jeune homme. Mais il faut dire que le plus spirituel des peintres modernes n'inventerait pas de charge si comique. L'animal tenait dans une de ses pattes de devant une raquette, aussi grande que lui, et se dressait sur ses pattes de derrière pour mirer une énorme balle que lui renvoyait un gentilhomme en habit brodé. Dessin, couleurs, accessoires, tout était traité de manière à faire croire que l'artiste avait voulu se moquer du marchand et des passants. En altérant cette peinture naïve, le temps l'avait rendue encore plus grotesque par quelque incertitude qui devait inquiéter de consciencieux flâneurs. Ainsi, la queue mouchetée du chat était découpée de telle sorte qu'on pouvait la prendre pour un spectateur, tant la queue des chats de nos ancêtres était grosse, haute et fournie. Thank you. Le repas fut excellent. Je vis Balzac, cet homme animé d'une énergie vitale extraordinaire, qui a bâti un travail énorme à un rythme quasiment inégalé dans l'histoire de la littérature, manger plusieurs douzaines d'huîtres, boire deux bouteilles de Chinon, dévorer à pleines dents des poires énormes qui ressemblaient à des melons. À la fin du repas, il m'invita sur la terrasse, cette même terrasse qui, dans le Lys dans la vallée, domine le paysage enchanteur où l'Indre serpente comme une couleuvre au soleil. Nous parlâmes longtemps de cet extraordinaire roman qui commence par la vie difficile du héros, Félix de Vandenesse, vie dans laquelle Balzac a mis beaucoup de sa propre histoire. Toute sa vie, en effet, il courut après l'amour d'une mère froide qui lui préférait un frère médiocre. Il me proposa une tasse de son fameux thé d'or. Un honneur. Il défit sa longue serviette, la plia, réajusta sa robe grise et partit dans une longue tirade où il faisait ses gammes, finissant par rêver sa vie et vivre ses rêves, rendant poreuse la paroi apparente entre le réel et l'imaginaire. Il ne mentait pas, il brodait autour d'une vérité à décrire. « Le soleil ne le mûrissait que pour l'empereur de la Chine, » disait Balzac. Des mandarins de première classe étaient chargés comme un privilège de naissance de l'arroser et de le soigner sur sa tige. C'étaient des jeunes filles vierges qui le cueillaient avant le lever du soleil et le portaient en chantant aux pieds de l'empereur. La Chine, ne produisant ce thé enchanté que dans une seule de ses provinces, et cette province sacrée n'en fournissait que quelques livres destiné à sa majesté impériale et au fils aîné de son auguste maison. Par grâce spéciale, l'empereur de la Chine, dans ses jours de largesse, en envoyait par les caravanes quelques rares poignées à l'empereur de Russie. C'était par le ministre de l'autocrate que Balzac, de ministre en ambassadeur, tenait celui que nous étions en train de boire. Comme il avait fini de postillonner, car Balzac, lorsqu'il parlait et s'emportait, postillonnait à tout va, il termina d'un trait un verre de punch et, reprenant la discussion à propos de son délicat roman « Chantant la vallée de l'Indre », me prit à part. « Vous savez, monsieur, comment le lexique fait partie de mon travail. Quand je conçus le projet d'écrire mon livre, j'eus comme Cooper, le lac Ontario, Cooper, oh, comme c'est simple et beau, ce grand roman américain, comme c'est grand. J'eus, vous dis-je, la pensée de donner le premier rôle au paysage. Pénétré de cette idée, je plongeai dans le panthéisme naturel comme un païen. Mais ma préoccupation première fut de connaître le nom de ces herbes. Je demandai à mon jardinier qui me répondit bêtement. Bah, « C'est de l'herbe, monsieur, c'est de l'herbe !» Je l'arrêtai. « Mais non, je te demande comment tu appelles ces milliers de petites herbes-là » Le lendemain matin, un ami, grand voyageur et botaniste, vint me voir. Il n'était, ce fut sa seule réponse, que spécialiste de la flore de Malabar en Inde. « Allez au jardin des plantes, me dit-il, j'accours. » Un des plus profonds professeurs du jardin des plantes haussa les épaules lorsque je lui adressai mon souhait. Oh, monsieur Balzac, mais que me demandez-vous là? Je peux vous parler des larix ou bien des tamarix, mais nous n'avons pas le temps de nous intéresser à ces petites herbes-là de rien du tout. Oh, c'est une affaire de salade. Je partis pour la Touraine. Mais aucun paysan ne put combler mon attente. Il m'a été malheureusement impossible de décrire avec précision ce tapis de verdure que j'aurais eu tant de bonheur à rendre brin par brin à la lumière lumineuse et patiente des flamands. Allez maintenant, Venez, je vais vous faire visiter mon palais vénitien. On passa de pièce en pièce et tout était vide. Pas un meuble, pas un tableau. Balzac avait écrit de sa propre main, à l'aide de charbon, ce qui aurait pu, ce qui un jour se trouverait à ses places, décrivant un palais des mirages, un château en Espagne. Ici, un revêtement en marbre de Paros. Ici, un stylobate en bois de cèdre. Ici, un plafond peint par Eugène Delacroix. Ici, une tapisserie d'Aubusson. Ici, une cheminée en marbre cipolin. Ici, des portes façon Trianon. Ici, un parquet mosaïque formé de tous les bois rares des îles. Ces merveilles n'ont jamais été qu'à l'état d'inscription écrite au charbon. Maintenant, soudainement, la nuit était tombée. Car pour que le texte brille, il faut que tout autour de l'écrivain, la nuit tombe autour de lui. Il poussa la porte de son cabinet de nuit. Sur une petite table, sans importance, s'amoncelaient les pages manuscrites, gribouillées, rayées, tandis que juste à côté, s'empilaient les dernières épreuves, elles-mêmes surchargées de corrections, à n'en plus finir. Balzac, comme Proust, est un des rares écrivains à toujours en rajouter, gonfler le texte, le surnourrir par un travail incessant, lui donner l'épaisseur du réel. Une lampe à quinquer diffusait une lumière jaune d'or. Un mince filet noir s'échappait du tube en verre et montait au plafond, lui aussi noirci d'encre. Alors, un peu comme des ectoplasmes, le père Goriot, Eugénie Grandet, Rastignac, Vautrin, Gaudissart, la Rabouilleuse, tous les personnages de la comédie humaine entouraient tendrement leur créateur, semblaient l'enlacer avec leurs bras transparents et roses. J'espère que cette première émission vous aura donné envie de lire les romans de Balzac, qui sont passionnants. Sur le site de l'émission, vous aurez une bibliographie, au mois prochain, en compagnie de Gustave Flaubert.